Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Comics Weekly numéro 152. Cette semaine, nous allons revenir sur les reviews VO avec du très très lourd chez DC puisque c'est le début de Trinity War dans Justice League numéro 22. On a également de grosses sorties avec Superman Unchained numéro 2 et Batman 22. Du côté de l'indé, des petits numéro 1 chez Image comme Ghosted ou Sheltered. Également chez Marvel, c'est une plus petite semaine cette fois puisqu'on n'a pas énormément de choses. Du Secret Avengers, du Hawkeye, du Hulk et Thor The Dark World, le prologue numéro 2. Enfin, on terminera avec une partie digitale. Je suis Bruno et vous écoutez le Comics Weekly 152. Alors avec moi pour m'accompagner dans ce Comics Weekly, j'ai le plus grand collectionneur de comics de France, Monsieur Onibuni.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir.
J'ai notre grand spécialiste des séries procédurales, Steve.
Bonsoir à tous.
Et j'ai notre fanboy de Vertigo, Florent.
Bonsoir Bruno, comment ça va?
Ça va bien, ça fait bizarre la présentation.
Allez-y, faites votre petit dîner en tête à tête tous les deux. Et comment il dit ça? Il dit juste bonjour à Bruno, lui.
Présentateur ouais, lèche que je suis le host cette semaine, donc c'est pour ça. Ouais. Il fait de la lèche. Et donc on va commencer tout de suite avec les reviews de chez DC, avec Justice League 22, et c'est Flo qui va nous en parler.
Tout à fait. Trinity War Part 1, écrit par Geoff Jones et dessiné par Ivan Reis. Écoutez, ça fait à peu près 2 ans qu'on attend ça. Donc, je suis content que ça sorte.
C'est pas une mutation de Chirac.
C'est enfin sorti. Putain, 2 ans. Et donc, comment le prendre? Geoff Jones avait déjà par le passé posé pas mal quand même de briques de Trinity War dans toutes ses séries. Et plus récemment, c'était évidemment dans Justice League et Justice League of America, avec la Secret Society notamment. Et donc Justice League 22 est vraiment dans la continuité des événements précédents. C'est une part one, mais on sent que c'est du Geoff Jones qui met plein d'éléments partout auparavant. Ça nous ouvre avec une personne qui vient visiter la petite échoppe de Madame Xanadu. Et cette Madame Xanadu, en disant l'avenir à cette dame, à cette jeune femme, va voir le futur. Et va voir les terribles dévastations d'une certaine guerre de la Trinité. Qu'est-ce que c'est? Elle est très intriguée, elle a peur. Et en fait, c'est un petit peu le fil rouge de ce numéro, puisque tout au long de cette consultation, Madame Xanadu va tirer des cartes et découvrir un petit peu ce qui se passe pour chaque personnage représenté sur les cartes. C'est très malin comme storytelling et c'est très sympathique. Donc on va suivre... par exemple Superman et Wonder Woman qui rentrent de Belle Rêve où ils ont emprisonné Despero, le vilain des épisodes précédents, et qui vont tomber sur Pandora. Pandora qui va leur demander de l'aide.
Que Steve appelle cette conne de Pandora.
Rappelez-vous, voilà. Donc cette conne va leur demander de l'aide et il va se passer un truc assez étrange pour Superman, très curieux. Ensuite, on va aller à Washington voir Amanda et Steve Trevor, Amanda Waller et Steve Trevor, un petit peu discuter de la Justice League et dire que c'est compliqué, c'est un numéro très dense. D'abord, on a surtout
Steve Trevor.
on a surtout Billy Batson qui veut lâcher les cendres de Black Adam au Kandak. Voilà, et comme c'est un enfant, il sait pas qu'il fait des choses un petit peu interdites par les lois internationales. Et donc évidemment, il va se faire poursuivre par l'armée du Kandak, et la Justice League va vouloir intervenir, et du coup, comme la Justice League intervient, la JLA, elle va débarquer pour les virer, parce que justement, ils rompent les lois. Enfin, c'est vraiment la grosse merde et la grosse baston. Donc c'est un numéro très très dense, que j'ai très très mal résumé, évidemment. Mais mieux, c'est encore de le lire,
oh,
parce que c'est vraiment... il se passe plein plein de choses dans ce numéro. Bruno, parle-nous-en un petit peu, peut-être.
Ouais, je sais pas. On l'a tous lu, donc déjà, moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les dessins déjà, parce qu'un Ivan Reis en très grande forme, ça fait toujours plaisir, surtout sur Justice League. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Comme tu dis, j'ai bien aimé la narration. J'ai trouvé que c'était, il y a vraiment de quoi lire quoi dans ce numéro, et ça lance bien l'event. Donc non, moi, j'ai trouvé ça très bien. Je sais pas ce que tu en as pensé, Steve.
Alors, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont vraiment plus désagréables. Cette confrontation finale me paraît beaucoup trop forcée. Elle est amenée de façon trop simpliste pour qu'on puisse y croire. Même si c'est malin de nous l'avoir fait sous le thème de la politique, parce que voilà, ça rend les choses un peu plus terre à terre. Donc bon, mais la façon dont c'est fait, ça aurait peut-être mérité d'être un tout petit peu plus développé, un petit peu plus d'engueulade entre eux avant simplement qu'on se mette des coups de poing sur la gueule, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Pandora qui m'insupporte. Après, ça c'est un choix personnel, mais non, mais c'est, enfin, bon, c'est le personnage de Pandora, quoi. Un personnage insipide, complètement vide, qui ne pense qu'à sa pauvre petite gueule, puisque je veux sauver le monde, mais non, je veux surtout me libérer de ma malédiction. C'est pas je veux sauver le monde, c'est je veux me libérer de ma malédiction. Rappelons quand même que cette connasse a mis 9000 ans avant d'apprendre à se battre. C'est chose qui me fait toujours rigoler. Bref, le thème est plutôt intéressant, même si, comme tu l'as dit, Flo, la narration par les cartes est agréable. On a plein de petits détails qui sont cachés par-ci par-là sur les cartes. Mais ça fait... enfin, je sais pas, il y a du bon, il y a du moins bon, quoi. Je sais pas ce que tu veux rajouter à ça, Benny.
Bah écoute, moi j'ai trouvé l'épisode globalement... graphiquement c'est très beau, ça c'est certain, j'ai vraiment apprécié l'épisode de ce côté-là. Par contre le scénario, je trouvais ça assez faiblard en fait. Le truc c'est que c'est très très cliché, et puis alors vraiment là on est à fond dans la joute qui tout tient sur un malentendu, quoi. Ah bah mince, tiens... il y a Trucmuche qui a dit ça, qui pète les plombs, enfin c'est du déjà vu, et puis voilà quoi, on se fout sur la gueule.
Ouais, de toute façon, rencontre de super-héros, hein.
Vous rencontre de super-héros, ouais. Mais là franchement le motif, Civil War c'était vachement fort, c'était vachement bien amené.
Il y a quand même les méchants qui sont derrière tout ça. Hein.
Donc, ils sont quand même manipulés, ils sont quand même pas mal manipulés. C'est...
Bah oui, mais enfin ils ont l'habitude, j'ai envie de te dire, depuis tant d'années quand même. Un petit peu peut-être, je sais pas.
L'univers a été rebooté, ils n'ont pas encore été manipulés.
Ouais. Puis a priori, non,
ça fait 5 ans qu'ils sont là quand même. Hein. Ouais, ils ont sauvé le monde plein de fois, soi-disant. Donc...
Ah mais là, le super super méchant qui se dévoile enfin et qui est un peu derrière tout ça et qui a l'air d'être quand même très puissant. Donc...
Ouais, mais ça me fait chier moi, les méchants. On connaît rien en fait. Franchement, de la menace, on connaît rien. J'attendais à ce qu'ils nous révèlent des nouveaux éléments en fait sur cette menace mystique. Ou en tout cas sur les ennemis qui se cachent derrière tout ça. Et on n'en a pas, au fait. On a,
ouais, mais on peut faire des théories.
Un truc à la fin.
On peut faire des théories.
Ouais, mais je veux dire, c'est... Moi, franchement, je suis pas du tout emballé par le côté, de toute façon, mystique de la chose. Pandora m'ennuie, Phantom Stranger et The Question. J'aimerais juste savoir ce qu'ils viennent faire là, au fait, tout simplement. Pourquoi ?
Bah parce que c'est la Trinity of Sin.
Oui, mais enfin...
Voilà.
Concrètement, quoi, qu'est-ce que ça veut dire?
On sent qu'il joue quand même pas mal sur le terme Trinity, et puisqu'à un moment on voit aussi quand même une scène avec Superman, Batman et Wonder Woman. Il parle d'une Trinité. Il parle déjà presque de Forever Evil aussi à un moment.
Mais c'est bien le problème de cet event, c'est que maintenant on sait que cet event ne sert à rien sinon amener Forever Evil.
Ouais, mais c'est le chemin. Comment va être le chemin pour arriver là, quoi.
Ceci dit, oui, c'est quelque chose de classique. C'est quelque chose de classique.
Pourquoi te faire attendre 2 ans pour un event qu'on te tease dès le début de ce nouvel univers pour te dire que finalement ce gros truc que t'attends c'est quelque chose qui va mener à un event?
Ça va mener à... Oui, mais ça va peut-être aussi mener à une ère, un petit peu comme, comme on a connu chez, chez Marvel. On peut imaginer qu'après cette, cette mini-série Forever Evil, il y ait une, voilà, toute une période oui, un petit peu...
C'est cousu de fil blanc. C'est cousu de fil blanc. C'est ça le problème. C'est que là, conflit entre super-héros. Donc, conflit entre super-héros, forcément, les super-vilains, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ont la... Ils ont le champ libre pour agir, puisque les super-héros se foutent sur la gueule. En fait, là, ce qu'ils nous font, c'est une pseudo-Civil War, mais en beaucoup moins bien ficelé, beaucoup moins bien pensé, et puis ensuite, un pseudo-Dark Reign. Enfin, c'est ce qui semblerait sur quoi on part. Bon, après, il y aura peut-être des nouvelles surprises, mais ce qui concerne Pandora, etc., ça m'intéresse pas du tout, quoi, ouais. En fait.
C'est vrai que Pandora, là-dedans, c'est l'élément peut-être le moins fort, je trouve.
Bah oui, et ça devrait être, et ça devrait être celui justement qui est le plus intéressant.
Mais à la limite, enfin, la Trinity of Sin, l'histoire de la Trinity of Sin dans son ensemble et l'histoire de Pandora m'intéresse plus que Pandora en elle-même. Si tu veux, le personnage, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est plus la boîte de Pandore, le fait que les gens veulent la choper pour faire on ne sait quoi, ces manipulations de vilains sur les héros, sur les différentes
Justice League. C'est ça que j'attends, en fait. C'est ça que j'attends, parce que là, pour le moment, on a quasiment rien de ce côté-là. On a juste un conflit vraiment de gamins. Y a machin qui pète les plombs. Et puis alors, excuse-moi, mais c'est même pas la première fois depuis le début du run de Geoff Johns, là, sur la Justice League, que Superman est manipulé et que, d'un seul coup, il pète les plombs, quoi.
Oui. C'est un des autres défauts de cet épisode, je trouve, c'est que c'est vraiment centré sur Superman, quoi. Tout part de Superman.
Ouais, c'est vrai. J'ai envie de dire encore.
Mais moi, j'ai été quand même pris par l'histoire et voilà. Bah, on va donner nos notes.
L'épisode est bien. L'épisode est vraiment agréable à lire quand même. Il se passe des trucs. Bon, voilà, on n'a pas un épisode d'attente. C'est déjà pas mal pour une première partie. Le problème, c'est que c'est soit trop ambitieux, soit ils se donnent pas les moyens de leur ambition. Et ça arrive surtout trop tard. C'est trop tard.
Et puis des tie-in qui seront peut-être pour une fois intéressants. Donc,
oui, mais bon. 2 ans après, c'est trop tard. C'était pas au bout de 2 ans qu'il fallait faire ça.
Ouais, moi, je l'ai pris de manière légère. J'ai pas. Ah, bah, c'est. Moi, c'est un bail. J'ai été conquis par un petit peu le mystère et le fait que Geoff Johns ait fait monter la pression dans ses séries comme il sait bien le faire. Moi, perso, je vois pas de gros défauts à ce numéro.
Bail pour moi aussi. Hein. Ça reste quand même agréable à lire. C'est très beau. Donc, ça mérite d'être vu au moins ce premier pour voir si vous voulez continuer.
D'ailleurs, c'est mon coup de cœur. Parce que c'est enfin sorti. Fallait que ça sorte.
Ouais. Et toi, Benny?
Ouais, bon, moi j'ai mis un bail moins au fait, donc petit bail, hein, voilà.
Ok, bah pour moi c'est un gros bail puisque c'est aussi mon coup de cœur de la semaine. Et j' ai vraiment beaucoup aimé et je fais plein de théories par rapport à l'identité du fameux méchant et voilà. Et j'espère que ça sera bon ce à quoi je pense. Enfin, on verra bien.
Bah tu peux pas nous le dire d'ailleurs ce à quoi tu penses.
Ça sera un peu
spoil.
Parce
que c'est pas du spoiler. Ah bah non, c'est pas du spoiler, c'est de la théorie. Donc,
moi je pense que c'est vraiment en lien avec Flashpoint, mais voilà, on verra.
En lien avec Flashpoint, c'est-à-dire ouais. Ah bah dis-nous un peu plus.
Bah,
quoi.
Que le vilain, on l'a vu dans Flashpoint.
D'accord. Voilà.
Bon, enfin c'est même dit, hein, c'est même presque écrit. Après, faut avoir lu peut-être les tie-ins de Flashpoint, mais voilà. Mais ça m'intéresse, ça m'intrigue. Après, je suis peut-être complètement dans le faux.
Ce que j'ai envie de dire, juste pour terminer là-dessus, c'est que toi Bruno et toi Florent avez plutôt même bien apprécié l'épisode et être vraiment à fond dedans. Benny et moi, on est un petit peu plus sur la réserve, peut-être parce qu'on a subi trop d'events. Peut-être que vous n'en avez pas assez fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être nous, on a peut-être le fameux event fatigue.
Ouais. C'est mon premier crossover d'ici. Hein. Voilà. Donc moi, je suis content pour le moment.
Ouais, ça joue peut-être sur la préparation. Hein.
Ah oui, certainement.
Steve a raison, c'est ce que je me disais à la lecture, je me disais, j'ai passé l'âge, quoi. Enfin, il y a que 5 ans, ça m'aurait fait marrer, j'aurais dit, ah tiens, c'est fun cette lecture, mais là maintenant, c'est vrai que bon. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà lu ça. Enfin,
je vois que je suis fatigué d'avance, j'ai même pas envie de faire de théorie dessus, quoi. J'attends que ça vienne et je verrai.
Par contre, théorie, moi, je pense que justement le personnage qu'on voit comme méchant est peut-être pas vraiment le méchant dans l'histoire. Je pense que Pandora, c'est plus la méchante, au fait. Enfin bon, on verra.
Ouais, on verra. Alors d'ailleurs, c'est toi, Benny, qui va continuer. Tu vas nous parler d'un autre gros titre qui sort cette semaine, c'est Superman Unchained numéro 2.
Ouais, c'est censé être un gros titre, mais bon. Scott Snyder, j'y arriverai jamais, hein, c'est terrible, à chaque fois c'est le nom d'un catcheur qui vient à la place. Scott Snyder au scénario, Jim Lee au dessin, et Scott Williams d'ailleurs à l'ancrage avec... Il y a du Dustin Nguyen, alors je sais plus ce qu'il a fait d'ailleurs, Dustin Nguyen, c'est bizarre parce que... Est-ce qu'il y a un backup que j'aurais oublié? Je sais plus.
Il y a un backup,
ah,
mais
oui,
c'est
oui,
de
oui, exact,
Albuquerque.
Oui, c'est vrai, voilà. Avec Dustin Nguyen au dessin. Oui, oui, c'est Dustin Nguyen qui dessine le backup à la fin. Bon, c'est 4 pages. Hein. Ouais, alors donc, bah, franchement, Superman Unchained, c'est terrible parce que j'ai vraiment du mal à rentrer dans cette série. J'ai envie de dire, pour résumer très succinctement, bah, c'est encore Superman face à Lex Luthor, face au général Lane, face à une espèce de menace, on sait pas trop ce que c'est encore, une menace inconnue, extraterrestre, ou je ne sais quoi, qui est super puissante. J'ai vraiment du mal à rentrer dedans, et pour dire, ça m'a plus ennuyé de lire ce comic que de voir Man of Steel au cinéma, quoi. Donc,
D'accord.
J'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Alors je sais pas si en ce moment je fais une indigestion de Superman et que voilà, et que comme je dis, c'est très difficile de faire quelque chose de nouveau dessus. Mais j'attends vraiment à ce que Snyder nous sorte un truc qu'on n'ait jamais vu sur Superman auparavant, quoi. Vraiment une petite trouvaille, une petite intrigue qui fasse qu'on se dise, ah bah oui, tiens, c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça sur le personnage. Là, pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas. Alors c'est très joli, hein. C'est du Jim Lee. Maintenant, c'est pas non plus du Jim Lee à son meilleur. Je trouve que c'est sympa, mais j'ai pas été non plus bluffé par ce numéro. Voilà. Donc très franchement. Vu l'ennui que j'ai à lire cette série, je sais pas si je vais la lire très longtemps. Et là, je peux pas donner. Enfin, je vous laisse. Qui l'a lu d'ailleurs? Parce que
bah, c'est le seul
pas...
à l'avoir lu, donc.
Je suis
du
seul.
Coup, on va se fier à ton avis.
Ouais, bah moi, ce sera vraiment un petit check-it, quoi. À la limite du pass. C'est terrible au bout d'un second numéro de dire ça, mais
voilà. T'as pas été emballé, quoi.
Pas du tout, non.
Et il y avait pas de poster dans celui-là?
J'ai pas l'impression, mais qu'est-ce que
je
voulais dire,
pas nous refaire le coup à chaque épisode.
non, c'est clair.
Enfin, ce que t'appelles poster, c'est le
truc
genre
qui qu'il y avait eu dans le.
Oui, des pages à la Jim Lee. Non. Mais par contre, oui, peut-être parler juste vite fait du backup. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise. J'ai dit 4 pages, c'est juste 2 pages. Mais en tout cas. Non, puis non, rien, n'en parlons pas, parce qu'en fait, ça n'apporte quasiment rien. Si ce n'est qu'on a du Dustin Nguyen, voilà, bon, ça reste sympa de revoir Dustin Nguyen, qui dessine du Batman encore, d'ailleurs, dans le backup. Mais bon.
Bon,
voilà, c'est vraiment anecdotique.
Bon, alors, on va passer à un autre titre qui est encore une grosse attente. C'est le Batman numéro 22. C'est le deuxième épisode de Zero Year. Donc, je vais vous en parler. Donc, c'est toujours Scott Snyder au scénario et Greg Capullo au dessin. Voilà, on est toujours dans cette période avant que Bruce Wayne soit vraiment définitivement Batman. On voit qu'il est toujours contre le gang du Redwood. Ça commence avec une scène d'action où encore une fois Bruce Wayne s'est grimé pour pouvoir attaquer un petit peu le Redwood. Et une bonne scène d'action, bien mise en scène avec un petit peu d'humour, des gadgets. C'est presque un James Bond là, le Bruce Wayne avant qu'il prenne la cape de Batman. Le scénario se développe un petit peu, on voit qu'il y a quand même pas mal d'opposition entre Bruce et Alfred, qui est pas trop d'accord. Et après l'histoire va introduire peut-être un des méchants, le méchant enfin qu'on avait déjà entreaperçu dans le premier numéro de cet arc, qui confronte Bruce Wayne, le fameux Edward Nigma, qui travaille pour l'oncle de Bruce. Enfin, c'est son oncle ou c'est son...
Je sais plus. Beau... C'est son oncle.
C'est le frère de sa mère, voilà, c'est ça. Donc voilà, l'histoire se met en place. Il y a toujours ce style de Capullo beaucoup plus clair que dans les premiers numéros qu'il a fait avec Snyder, qui se passe à notre époque. C'est vraiment très coloré. On a un Bruce très jeune, un petit peu trop impulsif, on va dire presque. Mais voilà, il y a un bon petit twist à la fin. Il y a un petit peu d'astuce de narration justement lors de la confrontation avec Edward Nigma. Après, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé ça pas excellent quoi. Donc voilà. Après, qui l'a lu aussi?
Moi. Mais comme j'ai parlé déjà longuement tout à l'heure, je sais pas, quelqu'un veut peut-être prendre la parole avant?
Oui, que dire de cet épisode que tu n'as déjà dit? Un petit changement concernant la cave. Quand Bruce a trouvé la cave étant jeune, qui deviendra sa Batcave par la suite, qui est sympathique. Autant le moderniser un petit peu.
Ouais, il y avait vraiment le gros clin d'œil à Batman Begins. Aussi.
Oui, effectivement. Et puis on a surtout, moi, cette scène que j'ai trouvée énorme, cette confrontation entre Bruce et Edward Nigma, qui est superbement mise en scène.
Donc toi, t'as bien aimé, en fait, justement, ce jeu et tout.
Cette spirale, je l'ai trouvée excellente. J'ai trouvé excellente. Vraiment, très belle astuce de narration, je m'attendais pas à ça d'un Capullo, en fait.
Ouais, moi, j'ai juste trouvé, au fait, pas assez grande la spirale par rapport à la page, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même un grand espace qui reste en bas de page.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est dommage,
temps,
ils auraient pu faire le truc.
On est sur
un
média qui est de format rectangle. Ouais. Peut-être, ça aurait peut-être nécessité une double page, mais.
Et ouais, peut-être. Parce que là, du coup, bon.
Mais une double page aurait enlevé une autre et bon.
En tout cas, c'est vrai que c'est astucieux, mais c'est vrai que moi, ça m'a pas. Enfin, j'ai trouvé ça sympa, mais j'avais préféré quand ils avaient joué justement en retournant les pages pour parler de la folie de Batman. Je trouvais que l'effet était mieux réussi.
En tout cas, moi, je trouve retourner ça les pages a déjà été fait. Puis alors, moi, il y a bien un truc que j'aime pas, c'est devoir tourner mon comic dans tous les sens.
Ouais, mais je pense, je vous mets ma main à couper que non, peut-être pas ma main d'ailleurs.
Attention.
Un poil de couille, un petit poil de couille. On aura une page comme ça avec genre une espèce de labyrinthe. Où t'auras un dialogue entre Enigma et Batman sous forme de labyrinthe où faudra que tu tournes la page pour lire les différentes cases. Je suis sûr qu'on aura ça avant la fin de l'arc.
Enfin, et moi j'ai trouvé pourri hein, sa première énigme, Edward Enigma. Je trouve qu'il commence bon.
Oui, bah c'est, de toute façon, c'est en gros, sort par la fenêtre. On voit l'énorme fenêtre. Enfin, ça servait même à rien de le dire quoi, mec.
Non mais moi je la trouve pas pourrie, bien au contraire. Il teste le personnage. Il teste Bruce Wayne. Enfin, je veux dire, le mec, il va pas sortir un truc de génie, sachant qu'il sait pas forcément à qui il a affaire au départ. Il va pas sortir une énigme de folie, puisque son but, c'est qu'on réponde à son énigme. Il veut te piéger, mais par rapport à tes facultés. Te faire quelque chose qui est juste un tout petit peu plus dur que ce à quoi tu es habitué. Pas te sortir le grand jeu d'entrée. Et puis, on a quand même un énigme qui est débutant aussi. Faut y penser à ça.
Mais du coup, c'était sympa. Je suis content qu'on le voit parce que ça faisait longtemps qu'on avait des rumeurs comme quoi ce serait le personnage majeur du deuxième arc. Mais comme ils nous avaient dit que c'était dans le passé, on s'était dit, ah, est-ce qu'on verra Edward Nigma? Et bon.
Là, moi, j'ai trouvé cette rencontre très bonne, très efficace. Après, bon, on verra parce que c'est vrai que Nigma, on l'a pas tant vu que ça depuis le début des New 52, mais on verra si dans cette nouvelle continuité, Nigma est au courant de qui est Batman. Parce que après une rencontre comme ça, quand on sait comment ça se passe entre lui et Batman, il peut pas ne pas avoir deviné que c'est Bruce Wayne.
Ouais.
Ça me paraît illogique, surtout venant de Nigma.
Non mais surtout, sera-t-il encore vivant à la fin de Zero Year? Parce que peut-être que dans la nouvelle continuité, Nigma est mort.
Alors, on l'a entreaperçu dans le numéro 1 de Batman, il avait un mohawk en forme de point d'interrogation sur la tête.
Ah bon?
Donc, mais c'était sur une splash page quand il y avait tous les méchants qui sortaient d'Arkham.
Ah oui, mais c'était pas... Ah oui, mais est-ce que c'était eux?
Ah, on peut pas avoir la confirmation que c'est vraiment Edward Nigma, mais en tout cas, il ressemblait beaucoup le personnage. Il y avait également un petit backup. Enfin, je sais pas, c'est bon, vous avez dit ce que vous vouliez sur le.
Ah non, non, pas
numéro.
Du tout. J'aimerais quand même dire.
Mais non, c'est tout.
Moi, je me dis en lisant ça que Zero Year va être quand même assez long et douloureux.
On savait que ce serait 11 épisodes.
Ouais, mais malheureusement, ce que je craignais, c'est que la narration soit assez lente et soit du Snyder. Et enfin, là, c'est vraiment Snyder dans ses grands travers. C'est-à-dire que c'est quand même très verbeux pour pas grand-chose généralement, parce que c'est des longs discours. Et je me dis putain, mais allez, vas-y, accouche quoi à chaque fois. Et Snyder qui à chaque fois nous ressort encore des squelettes du placard de la famille Wayne. À chaque fois, c'est le fils du neveu de la concierge du chien. Qui a fait un truc un jour, qui a dit un jour, ah tiens, j'ai vu une carte en dessous de la cuvette des chiottes, peut-être que ça veut dire quelque chose. Et au fait, non. Au final, voilà.
Mais je vois pas ce que tu trouves qui nous a sorti là, venant de la famille de Bruce et qui n'était pas déjà là.
Cette espèce de, comment dire, d'oncle d'un seul coup qui nous impose un petit peu dans la série.
Mais non, mais c'était déjà là, ça.
Qui comme par hasard est assez douteux.
Non, mais ça, on le savait déjà, quoi. L'oncle de la famille Kane.
Ouais,
voilà.
On l'a entreaperçu dans quelques numéros de. Je sais plus si c'était dans Batman même qu'on l'avait vu ou dans d'autres séries.
On a peut-être entendu parler, mais là, voilà, quoi. Il utilise encore quelqu'un qui va encore être. Au cœur de l'intrigue, je veux dire, bon, ça continue, on va faire toute la famille, quoi. Un membre de la. D'ailleurs, il adore ça, la famille, puisque de toute façon, le dernier arc, ça s'appelait Death of the Family. Donc, je veux dire, il essaye de. Peut-être qu'il essaye de déconstruire la famille Wayne, et puis, je sais pas, à côté, de faire un truc avec la famille, entre guillemets, de Batman. Bon. Moi, ça me. Voilà, c'est je trouve ça toujours un peu pareil et j'ai trouvé ça long cet épisode et je me dis putain encore 9. Ça va être long. Voilà, c'est ce que j'ai pensé surtout quoi.
Bon et pour terminer, donc il y avait un petit backup qui lui était écrit par Scott Snyder et James Tynion IV avec des dessins de Raphaël Albuquerque, donc comme pour le numéro précédent, et qui revient encore sur le voyage de Bruce après la mort de ses parents pour essayer d'acquérir des capacités après avoir appris à conduire une voiture. Là, il apprend à devenir un escape artiste et avec un maître de l'évasion. Et voilà, c'est une petite. C'est 4-5 pages assez sympa. J'ai préféré celui-là au numéro précédent, même si c'était un peu téléphoné.
Pas Talon, l'escape artiste.
Non, c'était pas Talon. Ça aurait pu être rigolo, mais c'était pas Talon.
Ouais, par contre, il était flippant, le mec, je trouve.
Ouais, ouais.
Avec son singe là.
Je sais pas si on le reverra, mais oui, il a l'air intéressant ce personnage.
Je pense qu'on le reverra sûrement dans le prochain backup où il fera un tour, parce que autant dans le premier backup, ça s'était terminé par la personne qui lui a pris quelque chose va faire un tour en zonzon parce que c'était un
malfrat.
Criminel.
Ouais. Ouais.
Là, pour le moment, ils repartent tous les deux bras dessus, bras dessous quoi.
Ouais, mais c'est un personnage qui a l'air intéressant.
Et tu sens, vu que c'est un mec qui vient de l'ex-Union soviétique, tu sens que le mec a un passé très douteux.
C'est clair, c'est clair. Alors vos notes, mes chers amis.
Bye.
Je sais même plus ce que j'avais mis. Peut-être check it, je crois. J'avais mis sur le. Oui, c'est ça. Oui, check it, ouais.
Pour moi, c'est un petit bye. Allez, on va continuer avec Steve qui va nous parler du dernier numéro de Green Lantern Corps, le numéro 22.
Oui, alors un numéro qui, comme d'habitude depuis la reprise en main de la série et le changement d'équipe créative, est scénarisé par Van Jensen, avec des dessins de Bernard Chang. Robert Venditti assiste Van Jensen au scénario pour essayer d'avoir une cohérence maximale, et c'est bien le cas, puisque là il y a vraiment une cohérence entre Green Lantern et Green Lantern Corps. On commence avec la planète des Amarones, où elles sont face à un problème, leurs anneaux ne marchent plus. Lui non plus. Comme on avait pu le voir dans Green Lantern ou dans Green Lantern Corps, l'anneau qui s'arrête de fonctionner d'un coup. Et elles comprennent très vite que la batterie est pas en bon état, elle est en train de se vider de son énergie et qu'il va falloir retrouver l'entité qui gère les Violet Lanternes, c'est-à-dire Predator. Predator qui est un nom qui me fait toujours rire pour quelque chose qui vient de l'amour.
Ouais,
rappelons-le.
C'est vrai.
Ensuite, on va suivre notre ami le pleureur John Stewart qui a fini de pleurer. Ça y est. Ça y est.
Ah bah
là,
enfin.
Maintenant, il est badass. Maintenant, il crache limite sur les recrues. Non, il retourne sur Oa puisque on lui avait intimé l'ordre de revenir. Et puis, il voulait aussi raconter ce qui s'était passé, l'embuscade sur laquelle ils étaient tombés dans le premier numéro, avec ces espèces de changeurs de forme. Qu'il n'arrivait pas à identifier, il fait la connaissance de Rookie et il apprend surtout que les Green Lanterns ont changé de management et que c'est maintenant Hal Jordan qui s'occupe de tout, que Salak a décidé de quitter son poste de, on va dire, d'archiviste et que c'est Killua qui le remplace. Bon, un épisode où il y a beaucoup de dialogues. On va suivre aussi à nouveau Fatality qui, elle, a traqué ces fameux shapeshifters et essaie de savoir qui ils sont. Et on a cette fameuse scène que l'on voit sur la couverture avec une Fatality qui transperce John Stewart. Pour quelle raison, je vous laisserai découvrir ça
Fatality.
Dans l'épisode. John est lui ensuite envoyé en mission pour réparer un barrage sur une planète qui permet d'éviter que des matières radioactives se répandent et tuent tout le monde. Donc il y va avec des rookies. On fait la connaissance en particulier d'un rookie qui est vraiment, lui c'est le mec stratégique niveau guerre, qui rentre dedans, qui pourrit tout. et qui est plutôt sympa, donc j'espère que qu'on le reverra, ce personnage-là, parce que il a l'air plutôt intéressant. Voilà, bien sûr, il tombe dans une embuscade.
C'est
et
Shikamaru, ça, dans Naruto, quoi.
On comprend en tout cas qu'ils sont... non, il n'est pas stratège à ce point-là, mais en tout cas, c'est un très bon combattant qui utilise des stratégies, on va dire, destructrices.
D'accord.
Pour le moins. Et ben, surtout, voilà, ils vont se retrouver face à d'autres extraterrestres qui ont décidé de combattre les Green Lanternes, notamment dû aux actions des gardiens, et ils se rendent compte surtout que dans l'univers, bah, plus personne, ou en tout cas plus grand monde, fait confiance aux Green Lanternes. On a tendance à vouloir les éliminer. Et c'est à ce moment-là que l'anneau repère son pouvoir.
Pas de chance. Donc c'est un numéro qui t'a plu, Steve ?
Ouais, c'est un numéro qui est très sympa, ça bouge bien, les choses avancent. Tu sens l'urgence de John Stewart de vouloir retrouver Fatality, mais qui, le pauvre, se fait embarquer dans des missions qu'il n'a pas voulu, et avec des rookies qu'il n'aime pas, en plus. Non, franchement, non, c'est plutôt bien écrit, et j'ai même préféré, je dois avouer, ce Green Lantern Corps 22 au Green Lantern 22, qui était sympathique, mais qui avançait pas des masses.
Bah, c'est cool, ça.
Et on finit avec un bon petit cliffhanger avec des entités, je n'en dirai pas plus. Ça donne envie d'en voir plus. Peut-être, honnêtement, entre la menace de Relic, ce coup des entités, etc., ça fait peut-être un peu beaucoup pour l'univers de Green Lantern, mais il faut secouer un peu la fourmilière, donc c'est pas plus mal. Donc je vais dire un... Allez, entre un check-it plus et un bail. Ouais, si, un bail, allez, un bail. C'est un bon épisode, allez, ça vaut le coup.
C'est cool. Bon, on termine la partie DC, et maintenant on va passer à la partie indé avec un nouveau titre chez Image qui s'appelle Ghosted, et qui est présenté par Benny.
Ouais, Ghosted, je crois qu'on dit plutôt.
Ghosted à la Sam.
Voilà. Ouais, ouais, parce que là ça fait tête de fantôme en fait quand tu le dis à chaque fois.
C'est vrai.
Je me dis si je connaissais pas le
titre. C'est
chaud,
c'est le D un peu qu'on doit pas prononcer. C'est chaud.
Moi j'aurais dit Ghosted, mais bon.
Ghosted. Allez,
donc Joshua s'il te plaît, Joshua Williamson est au scénario et Goran Suzuka est au dessin. C'est une série Image, mais sous le label Skybound, le fameux label.
Oui, merci pour la précision, Flo. Voilà.
Le fameux, parce qu'il est fameux.
Je sentais que Benny cherchait.
Ouais, oui, je sais pas pourquoi. En plus, j'allais dire Mark Waid. À chaque fois que j'entends Skybound, je veux dire
tu
Mark Waid.
Tu penses à Skybound.
C'est vrai. Je confonds les deux. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait partie du label de Kirkman. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette série ? Déjà, on démarre sur un mec qui est en tôle, qui visiblement a pas eu la vie facile en prison. Et d'un seul coup,
ça démarre quand même sur un mec qui se fait enculer quand même.
Ouais.
Première page.
Enfin bon.
Pas lui.
On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas voilà quoi. Il a vraiment une vie de merde en prison et voilà quoi. C'est comme ça arrive souvent malheureusement. Et d'un seul coup des gens débarquent, une espèce de commando armé débarque dans cette prison pour faire échapper quelqu'un. Et en l'occurrence c'est lui. Alors il est un petit peu surpris. Il se fait assommer, il se réveille dans une espèce de pièce un peu spéciale avec plein de d'antiquités un peu particulières, un peu morbide. Et là il a affaire à un mec assez riche qui en gros lui donne la mission d'aller dans une maison hantée avec une équipe de spécialistes. Et on apprend d'ailleurs que c'est un ancien lui-même spécialiste du paranormal, et aller dans une maison hantée pour trouver un fantôme en particulier. Alors c'est un thème qui est pas déjà, enfin qui est pas totalement inconnu de la science-fiction en général, quoi. Ça rappelle certains pitchs de films, comme ce film d'ailleurs qui avait eu un remake dans les années 2000, où au fait un riche milliardaire.
La maison de l'horreur.
qui démarrait bien, mais qui était au final assez mauvais, malheureusement. Où un riche milliardaire donc effectivement demandait à un nombre de personnes, enfin des jeunes gens quoi, de passer, il prenait avec eux le pari de passer une journée, enfin une nuit plutôt d'ailleurs dans la maison, et voilà quoi, de survivre à ça, et en échange il gagne une certaine somme d'argent. Ça fait un petit peu penser à ça. Bon, il y a toutes les ficelles, voilà, de l'histoire un petit peu horrifique, mais c'est pas, ça fait pas flipper quoi, mais c'est juste Enfin, c'est assez fun, quoi. J'ai trouvé ça pas mal, ce premier numéro. Graphiquement, d'ailleurs, ça m'a fait penser un petit peu à du Klaus Johnson, je crois, quand il dessinait, parce que je crois qu'il avait dessiné, si je dis pas de bêtises, il a dessiné du Batman, Klaus Johnson.
Oui, possible.
Il y avait du Daredevil, du Batman, du plein de ouais. choses. Oula.
Mais j'ai trouvé qu'il y avait un trait un petit peu à la Klaus Johnson, mais si je me gourre pas de personne, hein, parce que je suis pas allé vérifier.
T'es pas le seul à l'avoir lu. Il y a aussi Flo qui l'a lu. Qu'est-ce que t'en as
justement,
pensé?
Justement, ouais.
Alors déjà, j'aime beaucoup Goran Suzuka, en plus d'être quelqu'un de très très gentil. C'est un excellent artiste, je trouve. Donc, et là, je trouve qu'il est vraiment à son meilleur. Il est même meilleur que sur les pages qu'il a faites récemment sur Wonder Woman. Donc c'est très très beau, et sinon c'est assez marrant parce que ça ressemble à un Ocean's Eleven dans une maison hantée, quoi, avec le mec qui monte son équipe, qui va voir ses potes, qui, enfin ça m'a vraiment fait penser à ça, mais avec un côté justement sur la fin, surtout un petit peu surnaturel, et ça mm-hmm. ça tourne autrement, mais dans la mise en place de l'équipe assez classique, et voilà, le début de l'histoire vraiment classique, ça m'a fait penser à ça, et j'ai trouvé ça assez sympa. Assez sympa à lire, ouais. Avec un bon cliff, enfin c'est, ouais, pour moi c'est assez efficace comme c'est très classique, mais assez efficace.
Je l'ai lu moi aussi. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le comics, moi, c'est les dialogues. J'ai trouvé ça très drôle, très mature, ouais. C'est ça qui m'a vraiment captivé. Après, bon, les dessins de Goran Suzuka sont vraiment très bons, c'est vrai. Voilà, c'est mystérieux, l'histoire de cette maison, elle a l'air complètement folle, avec une famille de dégénérés qui ont tué énormément de gens à l'intérieur. Ouais. Rien que sur ça, s'ils reviennent dessus, ça peut être cool. Franchement, un bon premier numéro, moi j'ai trouvé, et c'est une série que je pense que je vais poursuivre.
Bah, ça ferait une bonne adaptation ciné aussi, je trouve. Franchement, ouais. Un film à la Evil Dead comme ça, ouais.
Faut voir
marrant,
ce que ça donne après, mais en tout cas, c'est un bon départ.
Mais parce
bon
que départ. En plus, quand tu vois la photo de famille, ils sont pas trois, hein. Ils sont à peu près 25.
Ah non, non.
Dans la famille, t'as 25 malades dans une main.
Il y a quand même un gamin qui porte une tête coupée
oui,
dans la main encore.
J'ai remarqué, ouais.
Puis,
les familles voilà.
Et ouais, c'est ça en plus, hein. Je pense qu'il y en a un petit peu dans cette famille. Et puis voilà aussi un artiste qui sait faire du background, quoi. Et ça, c'est appréciable.
Ouais, mais il est là vraiment, je l'ai rarement vu aussi bon, quoi. Aussi bon.
Alors je sais pas si c'est une mini ou si c'est un ongoing, j'ai pas regardé, mais on peut imaginer que comme il a bien détaillé la photo de famille, il va y avoir des numéros qui vont revenir sur chacun des membres de la famille, peut-être sous forme fantôme, donc ça pourrait être rigolo.
Ah bah, en là, tout cas, il y a matière.
Il y a un vrai terrain de jeu, quoi. Il y a plein de fantômes, il y a une grande maison, il y a de quoi faire.
Il y a plein
et
de gens
sachant
morts,
que ça pourrait lui permettre de se reposer, tu fais un épisode flashback dessiné par quelqu'un d'autre, ce qui se justifie en termes de changement d'artiste. Et comme ça, lui, il est tranquille pour pouvoir se reposer pour un mois et prendre de l'avance pour éviter
exactement.
Les retards.
Exactement. Donc, bah, en tout cas, bah, vos notes, du coup.
C'est un très bon bail, ouais. C'est vraiment bien.
Ouais, pareil pour moi, un bon bail. Non, c'est pas mon coup de cœur. Ça aurait pu être mon coup de cœur, mais c'est pas mon coup de cœur.
Pour moi, c'est un bail aussi, et tentez, hein. Regardez, c'est assez sympa comme série. On va continuer avec un autre numéro 1, toujours chez Image, c'est Sheltered, donc c'est Flo qui va nous en parler.
Oui, c'est un ongoing, je crois, Sheltered, a pre-apocalyptic tale, écrit par Ed Brisson, à qui l'on doit également la série Comeback, qui sort chez Image, c'est une mini-série, Comeback.
Baby Comeback.
Dessiné par Johnny Christmas, que je ne connais pas. Ça nous parle de quoi? Bah, comme le sous-titre nous l'indique,
il s'appelle Christmas.
Oui, elle, c'est une fille. C'est Johnny.
D'accord.
E.
Okay. D'accord. Okay.
Ça nous compte un petit peu les aventures d'un groupe, d'une communauté survivaliste aux États-Unis. Un thème original.
Tu m'étonnes.
Donc, les preppers, comme on les appelle aux États-Unis, les préparationnistes.
Les prépuces.
Donc les survivalistes, pour ceux qui savent pas, bah ce sont ces gens qui se préparent en fait à l'apocalypse, quoi, à la guerre nucléaire, à la guerre civile, à n'importe quoi. Donc en gros, ils se font un abri dans leur jardin anti-nucléaire. Ils amassent plein de nourriture sèche, ils amassent des armes, ils apprennent à s'en servir pour se défendre en cas d'apocalypse et tout. Enfin, c'est assez. On a en France un regard très moqueur parce qu'en plus il passe de temps en temps des documentaires là-dessus où vraiment c'est tourné en dérision.
Bon, on a eu tout un tas il y a de ça 6 mois, hein, l'approche du 21 décembre 2012.
Voilà, on en a beaucoup
justement,
parlé.
Ça avait repris vachement d'essor.
Il y a eu une ville en France où tout le monde allait parce que c'était là où...
Bucarache. Ouais, voilà, c'était des hippies, alors que c'est généralement pas des hippies, les preppers. Enfin, il y en a, mais il y a aussi des vrais rednecks, quoi.
Ouais, ils sont plus rednecks, right-wing, etc., quoi.
Voilà, c'est l'image en tout cas qu'on en a. Bref, on suit en fait un camp, en gros une communauté qui construit un vrai camp au milieu de la forêt. Donc il y a de la neige, on ne sait pas trop où ça se passe aux États-Unis, mais dans le coin un peu de la série Revival, vous savez, je sais pas, l'Oklahoma, enfin un coin un peu paumé. Et donc ils montent vraiment un camp avec des barbelés et plein des genres de mobilhomes et en dessous de chaque mobilhome des abris nucléaires et tout. Toute une communauté de survivalistes. Armée et tout. Et on suit Vic, une adolescente, donc qui fait partie d'une famille survivaliste. Elle est avec son père. Et elle a une amie qui s'appelle Hailey, qui est un petit peu plus jeune qu'elle. Et voilà, on suit un petit peu cette vie et la préparation à l'apocalypse, quoi. Comment dirais-je, c'est vraiment introductif, hein, donc. Donc on voit un petit peu comment ça fonctionne dans cette communauté, on rencontre des personnages, on rencontre des gens qui ont l'air un petit peu plus douteux que d'autres. Ça ressemble à un conte social au début, un petit peu comme Revival, en fait, un truc vraiment, vraiment social. Et finalement, on ne sait pas trop quoi en penser. C'est pas traité de manière binaire. Il n'y a pas de jugement de valeur, en fait. L'auteur se moque pas du tout des survivalistes, au contraire, parce que ce père a l'air tout à fait normal et tout à fait équilibré. La fille est un peu, on n'a pas grand chose à faire des survivalistes, en revanche, mais il n'y a pas de jugement de valeur, et ça, j'ai trouvé ça sympa. Et il y a un très bon cliffhanger à la fin avec on sent qu'il y a des gens dans cette communauté qui sont un petit peu plus extrémistes que d'autres. J'ai vraiment bien aimé cette lecture, pour le côté pas du tout manichéen et pas du tout moqueur du thème. C'est écrit comme ils sont écrits comme des gens normaux, quoi, mais qui juste voilà, on se prépare à l'apocalypse.
Le mec qui a écrit ça est peut-être un survivaliste lui-même, en fait.
Non, je crois pas, mais en revanche, il y a une page à la fin où c'est un petit peu une newsletter de survivalistes. Mais je crois pas qu'il soit survivaliste lui-même, mais voilà.
Une petite question.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quand même un truc à la fin du numéro qui te donne envie d'aller voir la suite, genre une sorte d'avancée scénaristique?
Ah bah, complètement.
Il vient de dire qu'il y a un gros cliffhanger.
Il y a un très très gros violent cliffhanger. Ouais, c'est tout a l'air très bien, mais il y a ce cliffhanger là et puis ce truc où on sait pas si ça se passe dans notre monde et qu'il va jamais se passer d'apocalypse ou si il va effectivement se passer une apocalypse. Donc on sait pas où ça va aller. Et ça, c'est très intriguant.
C'est une télé-réalité.
Donc voilà, parce qu'il y a des indices comme quoi il y aura peut-être, je sais pas, on sait pas s'il y aura vraiment une catastrophe ou pas. Donc voilà, c'est très intriguant, très sympa, et c'est vraiment un très bon bail pour moi. Très bonne découverte, cette série.
Ok. Alors on va continuer avec un autre titre chez Image, un one shot que j'ai choisi parce que là j'ai trouvé la couverture très cool. C'est Dawn, The Swordmaster's Daughter. C'est écrit et dessiné par Joseph Michael Linsner, donc il y a quand même un très bon dessinateur, mais que je connais pas beaucoup, en fait. Et Dawn, c'est un vieux personnage qu'il avait créé. Il y a eu plusieurs histoires avec elle. Et donc voilà, j'ai tenté ce petit one shot et j'ai trouvé ça très sympa, une petite histoire complète qui raconte une petite anecdote d'un grand guerrier un peu qui se bat à l'épée dans un monde un peu post-apocalyptique et qui raconte son entraînement et comment il a réussi à devenir une sorte de héros et tout, qu'il a trouvé le courage de devenir un grand guerrier. Et c'est une histoire en rapport avec son maître d'armes et puis la fille de son maître d'armes. Une histoire très très sympa, très bien écrite, avec
c'est
de beaux dessins. C'est chez Image aussi.
D'accord.
Et voilà, de très beaux dessins. Les nanas sont très bien dessinées. Hein. C'est sa spécialité au dessinateur.
Ah, je me demandais pourquoi t'avais choisi ce
voilà,
truc.
Il y a pas de boobs, mais il y a du butt.
Enfin, excuse-moi, voilà. Dawn, si elle a pas de boobs, personne.
Non, mais
il y a
pas du boobs nu, mais il y a du butt nu. Donc il y a quand même un petit peu de peau nue. Voilà. Et donc c'est assez intéressant. Et j'ai trouvé ça cool. Après, par contre, il y a 3 petites histoires. Il y a la principale qui fait, je dirais, une vingtaine de pages. Il y a 2 autres petites histoires, une de 2 pages et une autre de 4-5 pages qui est plus dans la continuité de Dawn, et là j'ai vraiment rien compris du tout. Du coup, celle-là, je les ai trouvées un peu anecdotiques. Mais par contre, ça m'a donné envie d'aller voir un peu les anciennes séries, voir ce que ça donne, parce que j'aime beaucoup le style du dessinateur. Tu connaissais, toi, Steve ?
Dawn, ouais, un petit peu, ouais. J'en ai pas lu des masses, mais j'en ai lu quelques-uns.
Mais en tout cas, voilà, donc pour moi, c'est vraiment juste un check-it, un feuilleté. Si les dessins vous plaisent, la petite histoire, elle peut se lire et s'apprécier comme ça, sans connaître le reste de l'univers de Dawn.
C'est surtout que Dawn, il n'y en avait pas eu depuis assez longtemps. Alors, est-ce un test de la part d'Image pour voir s'il y a du public ?
C'est un test, puisqu'il y a Dawn 4, donc quatrième partie, qui sortira en 2014. C'est indiqué à la fin. Donc, comme tu dis, hein, c'est sans doute un test pour voir s'il y a vraiment de l'attente ou de la demande sur ce personnage.
Moi, je m'étais arrêté à Dawn of the Dead.
Voilà, bravo. Bravo, bravo. D'ailleurs, Benny, en parlant de mort, tu vas nous parler de Walking Dead numéro 112.
Je te donne des transitions.
Ouais, c'est pas mal.
Robert Kirkman au scénario, Charlie Adler au dessin, comme je le dis à chaque fois, quelle surprise. À chaque fois, je me dis, qui va dessiner, qui va écrire ce truc?
Surprise.
Et à chaque fois, je suis surpris. Voilà. Encore une fois. Alors là, c'est l'épisode typique où il y a une montée en puissance. Au milieu du numéro, tu te dis, oh putain. Et je me suis dit ça jusqu'à la dernière page. À la dernière page, tu te dis, oh non, je peux pas attendre un mois, c'est pas possible. Donc, gros cliffhanger de la mort. Franchement, cet épisode, il m'a tellement donné envie de lire la suite que ça pouvait pas être mon coup de cœur cette fois-ci. C'est juste énorme.
Ça pouvait pas ne pas être ton coup de cœur, tu veux dire.
Ça pouvait pas, ne pas être mon coup de cœur.
Il y a beaucoup trop de négations dans ta phrase.
Ou ça devait être ton coup de cœur, juste en fait.
Voilà, exactement.
Bon, ça kiffé, quoi.
C'est pour ça que Ghosted aurait pu être mon coup de cœur, mais là, franchement, cet épisode de Walking Dead était tellement. Ça faisait longtemps, quoi, que j'avais pas lu un comic qui m'avait donné autant envie d'aller voir la suite. Donc voilà.
Bah, tant mieux,
très,
alors,
très bon
parce
épisode.
Que après il va y avoir un rythme soutenu de sorties Walking Dead. Hein, on a vu pour cet automne avec deux sorties par mois.
Ouais.
Donc.
Mais justement, ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit, attends, ça commence tout de suite après ça, machin. Et ben non, en fait.
Non,
il y a encore quelques
deux,
épisodes.
Numéros, ouais.
Et putain, vu la situation dans laquelle se trouve Rick et toute sa bande à la fin de ce numéro 112, tu te dis, oulala.
Ce qui est terrible, c'est que tu n'as pas dit un mot de l'histoire.
Ouais. Mais je peux rien dire
parce que j'ai pas envie qu'il me spoil, donc je rigole. Donc du coup, un gros bail pour Benny sur Walking Dead 112.
Ouais. Mais Walking Dead, je vous assure, revient en force après effectivement quelques étapes qui étaient pas forcément excellentes.
Quelques dizaines d'épisodes un peu faibles, quoi.
Ouais. Faut pas déconner. Non, il y a eu une bonne remontée depuis l'épisode 100 quand même. Ah si, il y a eu de bonnes choses.
J'ai arrêté à l'épisode 100, donc.
Ouais. Non, mais
je crois qu'il y a Sam aussi qui avait arrêté, donc Sam, si tu nous écoutes, ça redevient bien.
Non, franchement, c'est excellent.
Voilà, et on va terminer
l'indé. Le prochain tome français devrait pas tarder, je pense.
Ouais, septembre, 18 en septembre. On va terminer l'indé avec un nouveau titre chez un éditeur dont on parle pas souvent dans les Comics Weekly, mais qu'on aime bien, parce qu'on les lit surtout en TP, c'est Valiant. Et là, c'est un numéro 1, c'est Quantum and Woody, et c'est Steve qui va nous en parler.
Et oui, et d'un coup de cœur, on passe à un autre, puisque c'est mon coup de cœur de la semaine aussi. C'est écrit par James Asmus, et c'est dessiné par Tom Fowler. Alors, retour de cette série Quantum and Woody, nouvelle vague Valiant, puisque c'était un ancien titre à la grande époque de Valiant des années 90. Alors, on a changé légèrement les personnages, ils sont restés en substance les mêmes avec quelques petites différences, à savoir que Quantum et Woody, c'est bien marqué sur la cover, enfin, pas sur cette cover en tout cas de cette nouvelle version, mais sur l'ancienne, c'était les pires super-héros. Donc on est dans un thème assez comique. On a deux frères, et c'est ça qui a changé, c'est que dans l'ancienne version, ils étaient simplement des copains d'enfance, dont les deux pères étaient morts, et ils se sont retrouvés mêlés à des machinations et ont récupéré des pouvoirs. Et bien là, la différence, c'est qu'ils sont deux frères. Alors, deux frères adoptifs, puisque l'un est blanc, l'autre noir, donc on se doute bien que ce ne sont pas forcément des frères de sang, mais leurs parents étaient des gens qui accueillaient les enfants, les foster kids, quoi. J'ai pas le mot qui me revient en français. Bien
les
sûr.
Enfants, famille d'accueil.
Famille d'accueil, voilà, c'est ça, merci. Putain, il y a des moments, c'est Jean-Claude Van Damme dans la tête.
Et là, ça change d'habitude, c'est le blanc qui est accueilli dans une famille de noirs.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est bien aussi de d'avoir ce petit changement qui
est, oui, c'est ça,
peut-être
c'est
pas grand chose, mais ça change du sempiternel classique.
Le cliché américain.
La famille blanche qui recueille le pauvre petit enfant noir dont les parents sont drogués en prison, voire les deux. le cliché, quoi. Alors, Quantum et Woody, eh bien, ce sont ces deux personnages-là qui vont devoir enquêter un peu malgré eux sur la mort de leur père. Leur père qui était un scientifique et qui travaillait sur des projets top secrets. Alors j'ai oublié leur prénom, Eric, le Black est donc un flic. Un mec, enfin peut-être pas un flic, il est peut-être plus de l'armée.
Ouais, il a fait 3 ans d'armée.
Voilà. Enfin, le mec bodybuildé qui sait se battre, qui a des costumes d'armée chez lui et qui se balade presque jamais sans son gilet barbale. Et puis on a Woody qui est lui un petit escroc qui a tendance à prendre des jolies filles, les inviter dans la meilleure suite de l'hôtel, leur promettre une soirée shopping et s'échapper par la fenêtre quand on vient réclamer la note et laisser la fille se démerder toute seule. Ce qui est une très bonne technique de drague. Avons-le. Bref, quand leur père va mourir et qu'ils vont être mis au courant, ils vont se rendre compte que les choses ne sont pas ce qu'elles sont, mais n'est pas juste mort comme ça, mais qu'il a bien été assassiné. Ils vont devoir enquêter et vont se retrouver au milieu d'expériences scientifiques qui vont leur donner des pouvoirs. Lesquels? Ça, c'est la grande question.
Les pieds palmés et puis...
Non, c'est excellent. Ouais. Enfin, voilà, on a tout de suite les personnages qui sont bien campés. On a Eric le Black qui a la tête bien froide et on a le blanc Woody qui est lui vraiment le personnage très goofy qui fait des conneries, qui n'arrête pas de provoquer son frère et qui est vraiment le petit escroc, quoi.
Ben, y a Flo qui l'a lu aussi et je crois qu'il a apprécié.
Ouais,
qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, bah c'est très très bien. Le début, même, j'ai trouvé ça un petit peu longué au début, et après ça prend son rythme et la fin est excellente. non, il y a des moments assez drôles sur la deuxième moitié de l'épisode. Enfin, remarque, la couverture est très drôle puisque c'est un what the fuck total de Ryan Sook avec une chèvre.
Oui, mais justement, où est la chèvre? C'est ça moi qui m'a gêné.
je sais pas, j'ai pas trouvé.
Elle est dans.
Voilà. C'est n'importe nawak, mais très drôle la couverture. Non, effectivement, les personnages sont bien campés, sont quand même assez caricaturaux. Faut dire, c'est quand même deux frères qui se chamaillent, un qui est droit dans ses bottes et l'autre qui est une genre de petite raclure. Ceci dit, c'est fun quoi, c'est fun à lire. Ça me fait penser à cette autre série de Valiant, Archer and Armstrong, quoi, ce côté...
c'est dans le même esprit.
Ce côté buddy movie, quoi. C'est vraiment ça, quoi, cette équipe avec leurs différences, et ça amène à des gags et des choses comme ça.
Oui. Il y a déjà eu, enfin, c'est surtout pour Steve, parce que, à mon avis, ce sera le seul à pouvoir savoir ce genre de choses. Est-ce qu'il y a déjà eu un crossover entre Archer et Armstrong, et puis ça,
mais
à
il y avait
l'époque,
des crossovers en fait. Généraux dans l'univers de Valiant. Puisque c'était des grosses menaces comme on a actuellement d'ailleurs des trucs qui reprend tous les personnages.
Alors, c'est pas marrant qu'ils en fassent un maintenant quoi.
Il me semble que dans le comics là ils font même référence justement au fait qu'il y a d'autres super-héros dans leur univers, donc c'est vraiment encore un univers
de toute façon Valiant l'a bien dit hein, qu'ils avaient un univers partagé et les super-héros habitent tous ensemble, enfin habitent tous dans le même monde.
Donc ça c'est très bien,
ouais,
donc
ils partagent un univers.
Il y a de grandes chances qu'il y ait des nouveaux.
De toute façon, la preuve, on est déjà en crossover en ce moment chez Valiant quoi.
Ouais.
On a les Harbinger Wars et on a d'autres crossovers qui se préparent en plus.
Alors donc moi je l'ai lu aussi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, c'est très drôle. Voilà, donc je vais pas rajouter grand chose, j'ai juste regretté qu'on ne voit pas la chèvre hein, effectivement. mais par contre j'ai kiffé les dialogues, c'est très amusant et c'est vraiment rafraîchissant et donc voilà, donc un titre Valiant que je conseille. Donc pour moi c'est un bail, et pour vous?
Ouais, très bon bail.
Deux bails aussi.
Gros bail aussi, c'est mon coup de cœur de la semaine.
Bon bah alors c'est parfait.
Valiant fait des choses très bien et il nous le prouve encore une fois.
Bientôt en français, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon.
Exactement. Ça commencera en septembre en France. On va passer à Marvel. Marvel qui avait quelques gros titres cette semaine comme Superior Spider-Man ou Uncanny X-Men, mais nous ne les avons pas lus. Donc nous avons lu d'autres titres. On va commencer avec Secret Avengers numéro 6, pardon. Et c'est moi qui vais vous en parler. Donc toujours au scénario, nous avons Nick Spencer et au dessin, nous avons Butch Geiss. Donc Secret Avengers, c'est une série que j'aime beaucoup. Une série très sympathique, très très drôle avec le Shield, ses manigances, ses histoires de pouvoir, la confrontation entre Maria Hill et puis la chef du Shield, le rôle de Nick Fury, un Phil Coulson beaucoup plus manipulateur que dans les films Marvel. Et surtout, c'est cette histoire de super-héros Marvel, en fait, qui sont programmés par le Shield pour faire des missions et qui après, dès qu'on leur dit un mot magique, ils oublient tout. Et donc, en fait, dans le numéro précédent, il s'est passé un élément complètement what the fuck, c'est-à-dire qu'ils étaient partis en une OP Black Ops pour aller éliminer le chef de l'AIM. Et ça s'est très mal passé puisque ils ont peut-être tué quelqu'un, mais c'était peut-être pas le bon. Et là il y a un interrogatoire un petit peu et là maintenant on revient flashback. Ils vont tout nous expliquer, ils vont nous dire mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et donc là c'est dans ce numéro, on a tout ce qui s'est passé avec Maria Hill, on a les manigances du sénateur, on a comment Mockingbird a récupéré Taskmaster sur l'île qui avait été envoyé là-bas infiltré. C'est le bordel, c'est très très drôle, il y a beaucoup d'action. J'adore. Donc pour moi c'est un gros bail et cette série est vraiment excellente. Je sais pas si tu l'as lu, Benny, parce que tu aimais bien aussi Secret, mais
non, j'ai vraiment du retard, donc
Ça reste.
J'espère que tu m'as pas trop spoilé.
Non, ça reste aussi. Toujours aussi bon et franchement j'aime beaucoup. Pas de trace par contre de lien direct avec Avengers pour l'instant. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils gardent encore sous le pied. On sait que Nick Spencer écrit aussi Avengers, mais autant dans Avengers ils faisaient des liens, mais là moi. Mais en tout cas voilà, très très bon titre. On va continuer avec Hawkeye justement, et c'est toi Benny qui va nous en parler, le numéro 12.
Ouais, parce que tu me poses une question, tu me dis est-ce que tu l'as lu, et puis alors je commence à répondre et puis tu me dis non mais en fait moi j'ai bien aimé, je trouvais ça sympa. Donc
merci de me donner la parole.
Vas-y, maintenant parle. C'est bon, t'es sûr? C'est bon. Je peux faire. Bon,
Hawkeye numéro 12 présenté par
Hawkeye numéro 12 présenté par Mac Fraction. N'importe quoi, écrit par Mac Fraction et fait Francesco Francavilla au dessin et Chris Heliopoulos à l'ancrage, non au lettrage d'ailleurs, voilà, nuance. Et donc au fait c'est un épisode essentiellement centré sur le frère de Hawkeye. Souvenez-vous, Clint Barton a un frère et là Mac Fraction nous le ramène, je vais le dire comme ça parce que j'y arriverai pas, nous le ramène donc dans cet épisode, un épisode au fait pas très drôle, hein, plutôt très très porté sur les souvenirs. C'est assez émouvant cet épisode, c'est assez mélancolique, voilà, donc vraiment épisode très bien écrit, très sympa. Alors ça se lit assez vite, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais, loin de là. Très très bonne narration encore une fois de Mac Fraction qui est toujours très à l'aise sur cette série, qui nous fasse des épisodes comiques décalés ou des épisodes plus sérieux comme celui-là, il est toujours très très bien quoi. Voilà. Donc un bail comme d'habitude. Vraiment une série qui reste bonne quelles que soient les circonstances.
Très très
ça
bien.
Ça met tout droit dans la cible.
C'est très bien, bravo pour Hawkeye, c'est parfait. On va continuer avec Hulk numéro 10, et c'est Steve qui va nous en parler en tant que fanboy de Mark Waid.
Ouais, comme tu l'as dit, c'est écrit par Mark Waid, c'est dessiné par Matteo Scalera, et c'est la deuxième et dernière partie de l'arc Blind Rage, où Hulk fait un tandem avec Daredevil. On nous avait expliqué dans le dernier épisode que Daredevil était un petit peu il avait été engagé par Bruce Banner, il était un petit peu le gardien de cette association avec lui et le Shield, et le fait qu'ils aient engagé Hulk, et c'était aussi la personne qui lui permettait de pouvoir discuter, avec qui il pouvait discuter sans être espionné par le Shield tout le temps, puisque privilège client-avocat. Voilà. Alors dans le dernier épisode, il s'était retrouvé mêlé à un espèce de trafic d'armes surpuissantes en plein cœur de Hell's Kitchen. Hulk et Daredevil essayaient d'enquêter là-dessus. Alors c'est vrai que Hulk enquêtait, c'est difficile, mais guidé par Daredevil, qui arrive à avoir...
J'ai écrasé tous les indices.
C'est un peu ça, ouais. Disons qu'il arrive à avoir une relation particulière avec lui, et Hulk le voit vraiment comme un ami. Donc,
ça fait très peur.
Il va pas le taper, et il fait ce que Daredevil lui demande. À la fin du dernier épisode, on apprenait aussi qui était derrière tout ça, et c'est là que c'était aussi intéressant, c'est que c'est un méchant qu'on n'a pas l'habitude de voir face ni à Daredevil ni à Hulk, puisque c'est le Baron Zemo. Mm-hmm. Et Mark Waid continue d'essayer de mélanger un petit peu les...
Il a foutu sa cagoule ?
Oui.
Ah, c'est bien.
C'est un petit peu le point de vue de Mark Waid d'essayer de mélanger des ennemis qui ne sont pas des ennemis habituels. Il l'avait déjà fait dans Daredevil, il avait déjà commencé à le faire dans Hulk au départ, et il continue avec ça, et c'est super intéressant de voir des ennemis qu'on n'a pas l'habitude face à des héros qui ne sont pas leur némésis classique. Bon, ils vont continuer d'enquêter, ils vont se retrouver donc face à ces caches d'armes et surtout ces armes soniques qui perturbent l'essence de Daredevil et qui ont tendance à énerver Hulk très fortement. Et quand Hulk est énervé, Hulk casse.
Ah oui.
Jusqu'au moment où Hulk se retrouve aveuglé par une arme qui fonctionne pas très très bien. Et un Hulk aveugle, c'est un Hulk qui pète les plombs. Puisque c'est comme une bête, quoi. Je veux dire, à partir du moment où il voit plus,
c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Eh bien, tu le dis bien, puisqu'il y a exactement cette comparaison qui est faite dans le comic. Non, sérieusement.
J'ai vraiment pas lu, mais.
Et non, c'est super fun. C'est super fun, c'est super agréable à lire. Les dessins de Matteo Scalera sont assez sombres et vont bien avec ce style un petit peu enquête, underground, et il y a de très bonnes scènes d'action. Des très bons moments de Daredevil qui essaye de calmer Hulk par tous les moyens en lui tirant dessus avec différentes armes pour essayer de calmer, parce qu'une de ces armes-là peut permettre de faire baisser la tension nerveuse. Sauf que ça marche pas du premier coup, vu que c'est un bouton pour faire tourner sur l'arme, sur une molette, mais cette molette n'a aucun cran, donc il ne peut pas savoir lequel est. Donc il faut qu'il teste tous les crans et il est obligé de canarder Hulk.
Mais Hulk, du coup, est à cran.
Lui, n'apprécie pas trop de se faire canarder, vous imaginez bien. Bref, donc, non, franchement, très bon épisode. Pour moi, c'est un bail, quoi.
Bon, parfait.
En fait, Mark Waid n'est jamais aussi bon que quand il écrit Daredevil, et il nous le prouve sur Hulk, en fait. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est cool, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il nous montre un Daredevil qu'on a l'habitude de voir dans la série de Mark Waid, mais tout ça est narré par Bruce Banner, qui fait son rapport et qui nous le livre un petit peu en espèce de case de narration, et un rapport a posteriori, et finalement qu'avec des éléments qu'on lui a rapportés, puisque lui n'était pas présent, c'était Hulk, et il n'a pas forcément les souvenirs de Hulk. Donc la narration est vraiment bonne aussi, on a vraiment cette double narration de ce qui se passe, plus le rapport qui nous permet de comprendre un peu plus certains éléments.
Bon, on va continuer avec un comics que je vous le dis tout de suite, vous pourrez passer à côté, hein. C'est Thor The Dark World, le prélude, le volume 2. Le premier était pas mal, parce que graphiquement c'était assez sympa. Mais pour celui-là, on a toujours le même scénariste, c'est Christopher Yost et Craig Kyle. Mais alors au dessin, on a Ron Lim. Alors Ron Lim, c'est un peu Timothy Green 2, quoi.
Donc, ouais, dis donc.
Bon, là, en tout cas, il est vraiment pas en forme, hein. Vraiment pas en forme du tout. Donc en plus j'ai été très déçu, parce que comme dans le précédent, en fait ça s'était terminé avec beaucoup de scènes qu'on voyait dans Avengers, et là on se retape encore 10 pages où ils nous redessinent les scènes d'Avengers plutôt que de développer des choses pour faire le pont entre les deux films Thor. Et voilà, si vous avez toujours voulu savoir ce qui s'était passé avec Jane Foster quand elle était à Tromsø en Norvège pendant Avengers, et bien vous le découvrirez dans ce comics magnifique.
Putain, j'ai trop envie de le savoir.
Voilà, ils essayent de faire l'humour aussi avec Iron Man, faire l'humour à la Robert Downey Jr. Et ça passe pas du tout. Enfin, c'est très bizarre. Autant le premier était, je me disais, mais pourquoi pas, j'irais peut-être voir le deuxième. Mais alors là, celui-là, j'ai vraiment trouvé ça tout pourri. Et puis alors la fin, c'est hyper expédié. Ça me fait un peu peur aussi pour l'intrigue du deuxième film. Donc voilà, pour moi, c'est le pass de la semaine. Et vous pouvez économiser vos sous.
Je t'encourage à aller voir les Silver Surfer des années 90 si tu vois du Ron Lim. En meilleure
voilà,
forme.
Mais c'est peut-être du Ron Lim, qui sera fort. Voilà, j'irai regarder. On va terminer avec la partie digitale, et c'est Steve qui va commencer en nous présentant le deuxième chapitre de Batman 66.
Ouais, j'ai décidé de continuer à lui donner sa chance quand même, malgré ce que j'avais dit sur le premier et le côté turbo média qui n'est pas du tout du vrai turbo média. Bon, de toute façon. Ça peut pas changer en une semaine. Ils auront pas de retour. Peut-être que ça s'améliorera d'ici le prochain arc, d'ici épisode 5-6, je ne sais pas trop.
Mais peut-être que t'as pris tes lunettes 3D cette fois.
Non. Mais c'est vrai que ça pique les yeux, hein, sur certaines cases. Franchement, ces espèces de colorisation par points, plus ces traits bleus un peu partout, qu'il faut vraiment arrêter de mettre, par pitié. Alors, scénarisé toujours par Jeff Parker et au dessin toujours Jonathan Case, qui fait bien sûr toujours dessin et couleurs. De toute façon, quand on a quelque chose qui sort toutes les semaines, on peut pas s'attendre à des changements la semaine d'après. Bon, ça suit toujours cette intrigue avec le Riddler qui avait laissé une énigme à Batman et à Robin à la fin du précédent chapitre sur un des parachutes qu'il avait utilisé pour s'échapper. Et on a une scène qui m'a fait un peu rigoler où on voit Alfred qui commence par éconduire quelqu'un qui au manoir Wayne qui voulait voir Bruce et Dick, mais ils sont pas là, ils ont pas le temps, et il va aller leur apporter des rafraîchissements en utilisant cette fameuse barre pour glisser jusque dans la Batcave.
Le Batpole,
ouais. Mais je cherchais la traduction française, mais je la retrouve pas. Donc voilà, cette espèce de barre de stripteaseuse. Hein.
Ah non, arrête. J'imagine Alfred en train de faire un striptease.
De pompier. Et donc on a Alfred qui glisse jusqu'en bas avec le plateau sans jamais rien renverser, en disant il faut que j'évite le bouton pour pas leur faire sortir de nouveaux costumes tout propres.
C'est con,
mais c'est assumé. Quoi.
Faut pas oublier que c'était une barre. En plus, ils rentraient habillés en civil. Et quand ils arrivaient au bout, ils étaient habillés en Batman et Robin.
Ouais, mais c'était les chevaliers du Zodiac de l'époque années 60, quoi.
Ouais, ça les habillait, mais on voyait jamais ce qui se passait dans le temps qu'ils descendent.
Bon, bah après, ils vont essayer d'enquêter et essayer de deviner ce sur quoi le Riddler avait jeté son dévolu, quel serait l'objet de son prochain casse avec l'indice qu'il leur avait laissé. Ils réfléchissent dans tous les sens et puis ils se rendent compte qu'il y a un nouveau club qui a ouvert, qui s'appelle le Meow Meow, non le Meow Wow Wow, pardon, nouveau club de danse. Et donc bien sûr on fait référence à cette fameuse scène de danse.
Ah.
Le public, quand ils vont enquêter dans ce club, le public demande à Batman et à Robin de danser, enfin et surtout à Batman de refaire sa danse parce que c'est devenu légendaire.
Danse.
Mais bon, à vous de voir s'il va la faire ou pas.
Ouais, mais c'est plutôt dans le Batman 69, en fait, que ça aurait dû passer.
Et bah bien sûr, qui est la dirigeante du club Meow Wow Wow ?
On se demande.
Voilà. Bon, c'est les années 60, hein, c'était du...
Ouais, il garde l'esprit de la série.
Du scénario plus simpliste. Bon, voilà, c'est un peu plus sympa que le premier, ça bouge un peu plus, il y a quelques scènes d'action, parce que le premier est un peu léger en scène d'action, je trouve. Bon, ça vaut ce que ça vaut 99 cents, quoi. À 99 cents, ça passe, un bon check-it, on va dire.
Okay, mon dieu, Robin, c'est encore un coup du Joker.
je suis curieux de voir ce que ça va donner en version papier, puisque la version papier sort très bientôt. Je crois que c'est la semaine prochaine. Peut-être que ça passera mieux qu'en digital, du coup, comme le Turbomédia est peut-être pas très bien utilisé.
Bah non, pas du tout même.
Donc voilà. On va continuer avec du bon turbo-média chez Marvel. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé. Wolverine, Japan's Most Wanted, numéro 1. Donc, on a Jason Aaron au scénario et Jason Latour au dessin, avec une aide de notre Frenchie Balak pour tout ce qui est les layouts et pour les effets turbo-média. Une histoire classique de Wolverine qui arrive au Japon et qui essaye de rentrer dans un immeuble pour soi-disant récupérer quelque chose qui appartient à Sabretooth, de la baston contre les ninjas de la main avec des effets un peu stylés tout de turbo média. C'est Jason Latour, je trouve qui est très bon au niveau dessin, c'est très dynamique, voilà, c'est pas très original, mais il y a une petite surprise à la fin et le nom du comics est vraiment bien choisi, donc j'ai trouvé ça cool. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, Steve.
Moi, franchement, j'ai adoré. Enfin, là, voilà ce que j'appelle du turbo-média, du vrai. C'est-à-dire, on a vraiment ce sentiment que l'histoire avance, que même si on voit quatre fois la même chose, la même scène, on va dire, puisque c'est le même dessin, mais avec les bulles qui changent, on a quand même cette notion de temporalité qui se déroule devant nos yeux. Les effets sont bien foutus. L'histoire est plutôt sympathique, notamment par son cliffhanger. Bon, déjà, Wolverine en pleine baston face au ninja de la main. Ça donne envie de voir en version turbo-média ce que ça peut donner. Et puis, ce cliffhanger te donne envie d'aller voir la suite. Hein. Je rappelle que c'est une histoire en 12 parties et qu'il va y avoir 3 comics comme ça.
Voilà.
Trois personnages emblématiques qui vont être adaptés de ces façons-là.
Bon, après, c'est un petit peu plus cher que d'habitude, puisque c'est 3$ l'issue.
Mais c'est peut-être un peu le seul défaut pour moi de ce truc-là, c'est que c'est un peu cher, quoi. 3$.
Après... Ça reste de l'exclusivité digitale, puisque pour l'instant ils n'ont pas prévu d'adapter ça en version papier, contrairement aux sorties d'essai par exemple.
Certes, mais 3$ c'est un peu cher, honnêtement. Même si c'est vrai qu'on passe quasiment autant de temps qu'à lire que pour lire un comic classique, c'est un peu cher, 3$.
Voilà. Et on va conclure notre partie.
On va peut-être donner la note.
Ah oui, pardon. Oui, bah moi c'est un. Bah, Bah, un bail pour le numéro 1 pour voir ce que ça donne et si ça vous plaît, prenez la suite, quoi.
Moi, c'est un check-it à cause du prix. Voilà.
Voilà. Alors, on va terminer donc avec Flo qui va nous parler d'un comics digital qui s'appelle Demon Dog.
Oui, Demon Dog, c'est un one-shot. C'est écrit et dessiné par Derek Charm, quelqu'un de pas très connu qui a
et
juste
charmant.
Dessiné une mini-série gratos qui est disponible gratos sur le web qui s'appelle Trip Fantastic, qui est vraiment très sympa, qu'on peut retrouver sur le site tripfantasticonline.com. C'est en 3 numéros, c'est vraiment très drôle, avec des dessins un peu à la Hanna-Barbera. Et donc là, cette fois, il fait son propre petit truc qui distribue sur le site Gumroad. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site pour un petit peu mettre sa musique, ses bouquins, etc. Et que les gens puissent les acheter vraiment très simplement par PayPal ou par CB. Voilà, ça coûte 1$, mais c'est du pay what you want. C'est 1$ minimum. Pour l'histoire, c'est vraiment super basique. C'est le Demon Dog, c'est un chien rouge qui est en fait un super-héros qui n'a aucun background, on ne sait pas d'où il sort. Et il lui arrive des aventures, il va sauver la veuve et l'orphelin. Par exemple, la scène d'ouverture, c'est toute l'intrigue, ça tourne autour de téléphones démoniaques. des méchants un peu ridicules qui préparent des cartons.
Ça me rappelle le concept d'un film d'horreur français tout pourri.
Il prépare des cartons de téléphones, de smartphones qui vont livrer partout dans la ville pour eux et qui vont, je sais pas, alors, se transformer en monstres et voilà, et anéantir toute la ville. Le logo de ce téléphone, c'est pas une pomme, c'est un pentagramme. Donc méfiez-vous si vous
c'est
voyez
louche.
Un pentagramme, c'est un peu louche. Et voilà, et ce Demon Dog qui se téléporte, il ouvre des portails et hop, il débarque directement chez les méchants et il leur pète la tronche. Et voilà, ça coûte, c'est vraiment très 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 simpliste, mais c'est très drôle, très frais. Ça, j'aimerais bien voir plein de petits one shots comme ça en fait. C'est très drôle. Les dessins sont super beaux, je trouve. C'est vraiment du Hanna-Barbera dans le style. C'est très très vintage. D'ailleurs, le fond n'est pas blanc, il est un peu vieilli artificiellement quoi sur Photoshop, donc ça fait comme du vieux papier, donc c'est très sympa. Voilà, ça coûte 1$. Pour moi, c'est un bail parce que c'est ça se lit vite, ça coûte presque rien. Et
ouais.
Voilà,
c'est des planches classiques, c'est pas du Turbo Media là, c'est des planches classiques.
Non, c'est des planches classiques, mais
d'accord.
Ça se lit très vite, okay. Très simplement.
Et c'est pas très cher, et donc c'est un bail. On va parler maintenant.
Ça me faisait envie, moi, de ce truc-là. J'ai vu 2-3 reviews plutôt positives. J'attendais
faut
d'avoir ton avis.
Pas, oui, c'est un artiste qui a été pas mal soutenu par Comics Alliance pour la série, la mini-série Trip Fantastic, que je vous encourage vraiment à lire parce que c'est vraiment très sympa et déjanté. Donc voilà, allez-y, ça vous aiderait un créateur indépendant.
Ça donne envie, ça donne envie.
C'est sur Gumroad, vous tapez Derek Charm et vous devriez trouver. Ou Demon
voilà.
Dog numéro 1.
Et donc on termine cette partie review avec quelque chose de pas très cher et on va commencer notre revue des TP de la semaine avec quelque chose de très cher et c'est Flo qui va nous parler des TP cette semaine.
Oui, alors, rapidement, parce qu'il y en a beaucoup. Absolute Blackest Night chez DC, donc un gros bon gros Absolute à $125. Ça fait 576 pages, donc c'est la fameuse maxi-série de Geoff Jones. Dedans, on retrouve donc tous les 8 épisodes, même les 9 avec le numéro 0 de la mini-série Blackest Night, Untold Tales of Blackest Night numéro 1, DC Universe numéro 0, The Blackest Night Director's Cut numéro 1 et les séries tie-in tirées de Green Lantern, donc 43, 48 et 50, 52. C'est juste bien dommage qu'il n'y ait pas la série Green Lantern Core dedans, parce que pour le prix,
c'est,
ça coûte,
c'est quand même très cher. Pour 50€, vous aurez les 2 tomes français qui reprennent
voilà.
Tout ça.
Notre conseil, prenez les tomes français qui sont reliés, très beau papier, très bien, voilà.
Bah là, c'est quand même du hardcover, quoi, parce que tu vends pas à 100.
En
oui,
français
oui,
aussi,
mais
c'est du hardcover.
Hein,
oui,
c'est
non, mais
hardcover,
oui, non, mais le problème, c'est quand même, c'est que $125 pour du hardcover, mais que 576 pages. Quoi.
Bah c'est ça, il
ouais,
y a
oui,
pas beaucoup
ouais,
de pages.
C'est
quoi.
Ça, ouais. c'est pas un omnibus. Bref, on passe ensuite à Justice League Dark volume 2, qui va rassembler le numéro 0, 7 à 13 et le premier annual, qui conclut en fait le run de Peter Milligan et qui débute celui de Jeff Lemire, le très bon run de Jeff Lemire, avec du Michael Ranin au dessin.
Peter Milligan.
Peter Milligan, pardon. Donc très très bonne lecture ça, et ça sort en français en ce moment, dans DC Saga je crois.
C'est ça.
C'est cela.
Ensuite on passe à Supergirl volume 2, la série préférée de Bruno.
J'aime bien Supergirl, mais je suis pas fan de la série.
Michael Green et Mike Johnson et dessiné par Mahmoud Asrar. Donc ça rassemble les numéros 0 et 8 à 12. Ensuite, on a deux tomes de luxe de Before Watchmen qui sortent cette semaine, avec le premier qui rassemble les deux mini-séries de Brian Azzarello, Comedian 1 à 6 et Rorschach 1 à 4, avec J.J. Jones sur le Comedian et Liber Mejo sur Rorschach. Voilà, deux mini-séries que j'ai trouvées personnellement très sympathiques. Before Watchmen ensuite, Night Owl et Dr. Manhattan, donc les deux mini-séries de JMS, J. Michael Straczynski, avec un des derniers travaux de Joe Kubert avant son décès, donc sur Night Owl, où il était ancré, il ancrait son fils, Andy Kubert. Voilà, très beau travail.
Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce de relié en français, donc si vous avez manqué les kiosques, il n'y a que la VO pour l'instant, pour les avoir en version reliée.
On a donc Night Owl, Dr. Manhattan, et aussi les deux Moloch 1 et 2, qui étaient dessinés par Eduardo Risso. Donc Adam Hughes aussi, quand même, sur Dr. Manhattan.
Oui, rappelons que c'est la série favorite d'Alan Moore, et si vous avez l'occasion de le voir, pensez à lui offrir ses bouquins.
Et à le faire dédicacer, surtout.
Non, très bon, les épisodes de JMS étaient également très très bons, je trouve.
Ouais,
chaque tome est à 29,99€.
Tout à fait, oui. 30$. C'est pas donné, mais c'est cool. Ensuite, le premier volume de He-Man, The Masters of the Universe, qui rassemblait en fait la première mini-série avec les numéros 1 à 6, écrit par James Robinson, repris très rapidement par Keith Giffen. Ouais. Voilà, je crois que t'avais bien
aimé.
Alors,
le pouvoir du crâne ancestral, ouais, c'est très sympa. c'est un bon prologue à l'ongoing qui est actuellement chez DC, qui est sympathique aussi.
Ensuite, on passe chez Marvel avec Avengers premier hardcover volume 2. Donc le deuxième volume d'Avengers, ça coûte $25. Pardon, j'ai pas dit combien ça coûtait He-Man, ça doit coûter dans les $17, je crois.
$15,
ça coûte pas cher. Ensuite, Avengers volume 2, écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Dustin Weaver, entre autres. Je crois qu'il y avait, je sais plus s'il y en avait d'autres dessus, mais de très bons dessinateurs. Qui rassemble les numéros 7 à 11 d'Avengers, cette série que je ne suis pas, mais je crois que le reste de l'équipe aime plutôt bien.
Ah, ça coûte cher là quand même, le
mais
7,
ce
$25.
Sont les premiers hardcovers, c'est d'habitude. Ouais,
voilà, comme d'habitude. Ensuite, on passe à Superior Spider-Man Team-Up. Donc ça s'appelle Superior Spider-Man Team-Up, mais en fait ça rassemble la série avec son ancien nom, qui est Avenging Spider-Man. Donc les débuts en fait d'Avenging Spider-Man de la période Superior Spider-Man, avec Avenging Spider-Man 15.1 et 16 à 19, écrit par Christopher Yost et dessiné par Paco Medina, Paolo Rivera, et je crois qu'il y a aussi du Marco Cecchetto. Ouais.
Des épisodes que Bruno ait bien aimé.
Ah ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et... très beau. Très cool.
Et vous pourrez les découvrir pour €17 du coup.
Voilà,
si vous ne les avez pas lus encore.
Ou vous attendez la VF.
Voilà. Parce que ça va sortir dans le magazine Spider-Man, mais c'est un petit peu lent.
Bah, une série tiens, qui ne sort pas en VF ou qui va sortir vraiment de manière très, très chelou en VF, c'est le premier TPB de Fantastic Four, FF, je veux dire, de Mike Fraction, Michael Red et Laura Allred. Superbe série qu'on vous conseille tous, je pense. Par contre, c'est marqué comme le premier volume, mais en fait, il rassemble les numéros 4 à 8. Il faut pas oublier d'acheter le volume 1 de Fantastic Four, qui rassemble en fait les numéros 1 à 2 de Fantastic Four et numéro 1 à 3 de FF. Voilà, c'est un premier TP à avoir avant, surtout avant d'acheter ce TP. Quoi.
Voilà.
Faites gaffe au nom, c'est très mal foutu.
On a eu l'info pour la VF, ça sort en février et il y aura les 8 premiers numéros dans le TP français.
Voilà. Et ensuite, on termine avec Marvel, avec Hawkeye numéro 2, qui rassemble les numéros 6 à 11. Donc, Mac Fraction, David Arra au dessin. Une série absolument immanquable, une des meilleures de chez Marvel du moment. C'est top. Je pense que personne ne peut contredire.
C'est super pourri. Je déteste.
c'est vraiment top.
Et ça vous évitera les traductions françaises dégueulasses.
Voilà.
J'ai pu discuter avec notre ami JHB. Qui m'a dit la traduction, c'est vraiment vraiment c'est calamiteux.
C'est dommage, c'est vraiment le problème chez
c'est difficile. Ouais, mais c'est difficile aussi hein, du Fraction dans FF.
Ah, c'est sûr. Bah, c'est
mais bon, fallait être à niveau au niveau de la bonne série que c'est. Donc ouais, c'est dommage. Si c'est raté, c'est dommage.
Et ça coûte $17 hein, et c'est du souple, je crois. Ensuite, on passe chez Image, avec une petite semaine chez Image, mais un tant attendu Prophète volume 2, enfin enfin le numéro, le deuxième TP de Prophète qui sort avec beaucoup de retard. C'est très inhabituel de la part d'Image, qui d'habitude sort ses TP le mois suivant la sortie du dernier numéro. Là, celui-ci, il est très en retard vu qu'on en est au numéro, je crois, 36 ou 37. Et il rassemble seulement le numéro 27 à 32, une série que personnellement j'attends beaucoup puisque je la lis en TP et j'attendais vraiment depuis des mois et des mois que ce TP sorte.
Ah, c'est peut-être aussi un moyen de pousser la consommation du single.
Bah, peut-être, mais je ne sais pas si c'est une série qu'on a vraiment besoin vu qu'elle est, très, elle est sold out tout le temps et que pour toutes les autres séries, ça sort juste après. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux.
Bref. On crée l'attente, donc justement, ouais, le fait que cette série soit sold out, faire attendre un peu les gens, que les gens le demandent et se jettent dessus quand ça sort.
Attends, ouais, c'est celle que j'avais essayé en français, là.
Oui, j'allais dire, oui. C'est ta série préférée, Benny.
Oui, oui, oui. Bah, j'ai commencé à lire les épisodes en VF et j'avais l'impression de lire un documentaire animalier.
Ah bah, le premier épisode, c'est un petit peu ça, mais c'est vraiment une série barrée. Il y a du Mobius là-dedans, ça c'est sûr.
Je me suis endormi dessus, totalement.
C'est écrit par Brandon Graham, le talentueux auteur de King City. C'est écrit et dessiné donc par Brandon Graham et Simon Roy et Giannis Milonogiannis pour certains épisodes.
Bravo.
Voilà. Et ça coûte seulement $15 et c'est du souple. Ouais. On termine enfin. Oui.
Non, je disais, tu sais, c'est du Moebius, il y a un petit peu de Moebius là-dedans, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent être hermétiques à Moebius, hein, finalement. C'est pas
non,
parce que Moebius est vachement bien.
Ah oui, mais c'est
que...
une série complexe. Hein. C'est pas un truc. Ouais. C'est
justement.
Non, c'est très chelou.
Plus c'est complexe, plus les gens peuvent être hermétiques.
Ah oui, non, c'est sûr. Mais voilà, c'est pour moi une des grosses perles vraiment d'Image en ce moment, quoi. Et on termine avec IDW, avec X-Files Classics Hardcover Volume 1, qui rassemble les vieux épisodes, les numéros 1 à 9, et ça coûte $25. C'était les épisodes qui étaient sortis en 95. 26 dollars.
Ouais, ouais.
Oui, bon, désolé. Avec notamment des dessins de Charlie Adlard.
Tout à fait. Il y a un dernier truc que tu as peut-être justement zappé, du coup. Le best-of ici, moi, ça m'intéresse, ça.
Oui, ben j'y viens.
D'accord, je croyais que tu disais c'est le dernier X-Files.
Pour la petite histoire, c'est IDW qui a récupéré les droits de X-Files, puisqu'à l'époque, ça sortait chez Tops.
Tout à fait.
D'accord.
Et on termine avec un Artist Edition chez IDW, donc ces gros formats qui reprennent les scans des dessinateurs. Un best-of ici.
Les scans des planches,
avec, voilà, le scan des planches, avec donc avec tout un panel de récits d'horreur, donc... un peu fantastique, donc qui était paru chez EC Comics, ouais. Avec une belle galette de dessinateurs, avec du Frank Frazetta notamment, et ça a l'air de te plaire, Benny.
Bah, y a du Alex Stott, ouais. Y a du Joe Orlando, voilà. Y a du Harvey Kurtzman,
c'est du lourd, hein, c'est du lourd.
Par contre, $125 hein, quand même la bête.
Ah bah, c'est une Artist Edition, c'est un très beau volume. Voilà, bah, c'est fini pour les TP.
Bien, merci Florent, merci, et puis bah merci à vous trois hein, de m'avoir accompagné pour cette émission et
de t'avoir écouté puisqu'on sera les seuls.
Bah j'espère que d'autres personnes m'auront écouté et c'était un exercice difficile la présentation d'émission, mais voilà, c'est amusant de le faire. Et donc pour les podcasts, vous pourrez les retrouver sur le site comiccity.fr, vous pourrez aussi les trouver sur vos agrégateurs de podcasts préférés, sur iTunes en particulier par exemple. Vous pourrez nous retrouver aussi sur Facebook, sur Twitter, @comiccity.fr. Et bah voilà, et c'était très sympa. Je sais pas ce que vous voulez dire pour terminer l'émission.
Le Twitter c'est @comiccity tout simple.
Je sais plus @comiccity voilà.
Et que les gens peuvent nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr, mail auquel voilà. Nous répondrons dans l'émission Weekly News bien sûr, notre partie Comics-Com
et pas Comics-Con comme l'avait dit Benny la semaine dernière.
Enfin, parce que je pensais à la Comic-Con bien sûr.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, bah merci à tous et puis bah à très bientôt.
À la semaine prochaine.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Bisous.